Welcome, ladies and gentlemen, friends and comrades, listeners all, to Amandla Radio here at CQUT 90.3 FM in Montreal. You can also reach us on the World Wide Web at ckut.ca/Amandla and or go to their programming archives and find all our records there. Ce soir, nous vous présentons le dernier épisode intitulé Un mensonge d'état, l'histoire d'Omar Blondin Diop. En 1973, Omar Blondin Diop était retrouvé mort dans sa cellule de la prison de l'île de Gorée, au Sénégal. Selon les autorités, c'était un suicide, mais depuis 50 ans, sa famille et plusieurs d'autres réclament la justice. Omar Blondin Diop fut un intellectuel subversif, un révolutionnaire, un panafricaniste dévoué qui a contesté le pouvoir néocolonial et était un fervent critique du président sénégalais Léopold Sédar Senghor dans la période post-indépendance. Lors des dernières semaines, nous avons présenté le podcast Omar Blondin Diop, plutôt La mort que l'esclavage, de Clémentine Métainier et Florence Maurice, produit par Radio France Internationale, RFI. Ce soir, nous vous présentons le dernier épisode intitulé Un mensonge d'État. Vous pouvez trouver le site web pour toutes ces émissions, épisodes, sur le site web de CQUT, CQUT.ca, dans la playlist Amandla. Merci à Zara Moulou de nous avoir présenté ce podcast.
Cela fait 50 ans qu'Omar Blondin Diop est mort. 50 ans que sa famille réclame la réouverture du dossier judiciaire. 50 ans qu'elle se heurte au même silence des autorités.
Allô?
Oui.
Oui, bonjour, Madame Nguyen.
Oui, bonjour.
Je vous ai envoyé un message WhatsApp il y a quelques jours. Je sollicite une interview avec le ministre de la Justice sur les demandes de réouverture du dossier d'Omar Blondin Diop.
D'Omar Blondin Diop. Bon, je vais aller le vérifier.
Ce numéro composé n'est pas pour le moment disponible. Votre numéro vidéo, Jeffrey Nafinetol.
En mai 2023 encore, l'avocat de la famille a saisi le ministère de la Justice. Dans un courrier resté sans réponse, il a rappelé les éléments troubles du dossier et les incohérences du récit officiel. Depuis, nous tentons également en vain de joindre le ministre. 50 ans après les faits, un parfum d'omerta continue de régner. Mais vous allez l'entendre, quelques langues se délient. Lentement, l'histoire s'écrit, la mémoire se construit. Nous sommes Clémentine Métainier
et Florence Maurice.
Vous écoutez Omar Blondin Diop, plutôt la mort que l'esclavage.
Épisode 5, un mensonge d'État.
Nous retournons sur l'île de Gorée. Le fort qui abritait la cellule numéro 3, où Omar a perdu la vie, a été transformé en musée consacré à l'histoire du pays et du lieu. La mémoire de la traite négrière y est longuement abordée. À aucun moment, en revanche, il n'est rappelé que du temps du président Senghor, ce fort servait de prison aux détenus récalcitrants. Seule une petite plaque, discrète, le laisse deviner, une plaque installée en mémoire d'Omar Blondin Diop.
Est-ce que vous avez vu la plaque ou... Ok.
C'est Cheikh Amala, l'un des frères d'Omar, qui nous y conduit.
Vous savez pas où elle est? Vous savez pas où elle est?
Non. Je suis là le jour d'il y a 10 ans. Le jour de la pause. Et puis c'est tout. Après, je suis plus revenu.
Son pas est hésitant. Depuis le décès de son frère, Cheikh Amala n'est quasiment plus jamais revenu ici.
Et je ne suis jamais retourné ici... Sauf le jour du 40e anniversaire où on est venu ici, et pour voir la pose de la plaque.
Donc la première fois que vous êtes revenu, c'est 40 ans après.
Voilà, 40 ans après.
Ce C'était le 11 mai 2013. Un premier geste officiel de mémoire obtenu par la famille 40 ans après le décès d'Omar et au prix d'un bras de fer acharné. Il a fallu l'accord du président de la République Macky Sall sur ce texte avant que la plaque ne soit installée en toute discrétion. Chaque mot a donc été soigneusement pesé. Une couche de poussière recouvre la photo d'Omar, la plaque est en hauteur. Cher Amala peine à la déchiffrer. Donc la voilà ?
La voilà, mais elle est particulièrement illisible. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, vous.
Vous êtes en train là de d'essuyer la plaque avec un mouchoir ?
C'est trop flou.
Qu'est-ce qui est flou ? Vous pouvez me décrire ?
Oui, parce que... Il semble qu'il y a quelque chose d'écrit ici, non ? Oui, il y a des choses écrites, mais qui, Omar Blondin Diop, a été... né donc à Niamey le 18 septembre 48, 46, à Niamey. Mais c'est illisible. Il est mort en détention dans cette cellule. J'arrive pas à lire. Vous voyez ?
Dans la nuit ?
Dans la nuit du 10 au 11 mai 1973. Bon. Je pense qu'il y a quelque chose à reprendre ici pour que ce soit un peu plus visible, un peu plus lisible.
Un peu plus lisible et également plus explicite. Car sur cette plaque, rien n'est écrit sur les circonstances du décès.
Cette plaque-là, cette photo, ce texte, qu'est-ce qui vous inspire ?
Bon, c'est un texte très neutre, parce que vous savez, comme je vous dis, il y a un début de reconnaissance, mais tout ceci, tout le monde s'entoure de prudence. Personne ne veut gêner les maîtres du pays aux entournures. C'est le minimum incompressible, quoi. Hein, pour ne pas s'attirer de problèmes. Pendant longtemps, on a pensé que l'actuel président serait disposé à réouvrir un dossier judiciaire. Mais malgré nos demandes réitérées, ils n'ont pas bougé. Ils ne veulent pas sortir les cafards qui sont dans le placard de Senghor.
Mama Ramsek, le conservateur du musée, semble embarrassé de nous en parler.
Pour être honnête, c'est quand j'ai été nommé conservateur que j'ai vu la photo dans cette salle. C'est à ce moment que je me suis vraiment intéressé à son histoire. Et maintenant, les circonstances de sa disparition, bon, ça reste encore énigmatique.
Ça vous questionne, vous, des fois, vous y pensez, dans ce lieu, en voyant sa photo ?
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est un lieu de mémoire aussi. Bon, une histoire peut-être pas glorieuse, mais une étape quand même de notre histoire, aussi de l'histoire de l'île de Gorée.
Voilà, donc j'arrive aux archives de l'école de police. C'est ici que se trouvent les archives du ministère de l'Intérieur. Et donc c'est ici que se trouve en théorie le dossier sur l'enquête ouverte après la mort d'Omar Blondin Diop.
Partir sur les traces du décès d'Omar, c'est se heurter à beaucoup de gênes, de non-dits, de flous et d'intrigantes disparitions.
Donc voilà, il y a effectivement un dossier qui est répertorié sur l'affaire Omar Blondin Diop. Il est dans le répertoire, mais le dossier n'est pas disponible. Même la boîte, en fait, n'existe pas.
Puisque les archives papier sont muettes, nous avons rencontré les rares témoins encore en vie qui gravitaient, en 1973, autour du président Senghor. Mustapha Niass était alors son directeur de cabinet. Il garde un souvenir précis de la réaction du président sénégalais à l'annonce de la mort d'Omar.
un jeudi, vers 11h, nous étions dans nos bureaux à la présidence de la République. Le président Senghor avait fourni dans son bureau, je l'ai trouvé debout, face à la fenêtre en direction de Gorée. Il était dans une situation psychologique extrêmement malheureuse en me disant, Moustapha, Omar Bolondin Diop est mort. J'ai senti que j'étais devant un homme qui était comme s'il avait perdu son propre fils.
Dites-moi, pourquoi il était si blême le jour de la mort de Omar Bolondin Diop?
Je ne peux pas l'expliquer, mais je peux témoigner qu'il était atteint. Je peux témoigner que moralement, le président Senghor était désolé de la mort de Omar Bolondin Diop. Ça, je peux le dire. Il m'a dit que c'est une catastrophe. Mais...
Pourquoi une catastrophe?
Je ne sais pas.
Lorsqu'on l'interroge sur les circonstances de la mort, le conseiller s'en remet à Dieu.
Moi, je me suis interdit de me prononcer sur le suicide ou l'assassinat. Je n'ai jamais vu le rapport concernant la mort de Omar Bolondin Diop. Je n'ai jamais voulu voir ce rapport et n'ai jamais voulu le lire. Donc, je suis prudent. C'était une perte malheureuse. Et Dieu, qui sait tout, dans toutes les religions du monde, Dieu sait tout. Dieu sait. Et ceux qui auraient pu participer, directement ou indirectement, à ce qui s'est passé, ils le paieront devant le Seigneur. Voilà ma conviction. Mais je ne veux pas me prononcer sur le débat.
Alors Jean Collin, qui était ce personnage?
Je ne parlerai pas de Jean Collin.
Ah, non plus.
Parce que mon éducation ne me le permet pas puisqu'il est mort.
D'accord.
Quoi qu'il ait pu faire, quoi qu'il ait pu avoir été, je prie pour le repos de son âme.
Mais alors une question quand même, parce qu'elle est importante. Roland Collin, justement, votre ami, écrit qu'il est mort suite à une altercation avec Jean Collin, qui a entraîné des coups.
Cela s'est dit, mais je ne peux pas confirmer ou infirmer, ni contester, ni dire que ceci s'est passé comme ceci, comme ça.
Moustapha Niass affirme ne plus jamais en avoir parlé avec Senghor. Et ce, même si, une semaine plus tard, le chef de l'État le missionnait pour être l'interlocuteur de la famille Blondin sur ce dossier. Ousmane, second de la fratrie, s'en souvient.
Quand l'affaire a éclaté, il m'a donné un rendez-vous, à l'époque c'était l'hôtel Teranga, et il m'a dit, voilà, c'est Senghor qui m'envoie. Le message est le suivant, ce n'est pas nous. Alors, il me dit, on a refait nos contre-enquêtes, nous, en tant que pouvoir. Il y a eu effectivement une échauffourée, il ne m'a pas dit échauffourée, un autre mot, avec quelqu'un de la pénitentiaire. Et je crois que c'est cet élément-là qu'on nous a caché. Voilà, donc tu dis à ton père, nous, on est prêts à faire la vérité et la lumière. Senghor n'a aucunement peur de ça, mais qu'il sache aussi qu'on est un État, qu'on a des procédures. Il faut arrêter la campagne de presse parce que ça ne donne pas un climat serein. Voilà, là, il a essayé de m'endormir.
Mais ça veut dire qu'il remet en cause la thèse du suicide devant
vous ? Ah oui. Moustapha Niass, il n'a pas dit ça comme ça. Mais la thèse de Niass, c'est que ce n'est pas Senghor, on ne tue pas.
Et là, le nom de Jean Collin n'apparaît pas ?
Alors, il apparaît en filigrane, simplement. Il m'a dit, les services de police, il m'a dit, Ousmane, tu sais ce que c'est, hein ? Il y a à boire et à manger dedans.
Est-ce que vous pouvez dire que, indirectement, c'était des pressions pour vous faire taire ?
Alors, c'était pour disculper Senghor. Voilà.
Un empressement à disculper Senghor. Voilà ce que l'on constate dans nos échanges avec les personnalités rencontrées pour cette enquête. Vous l'avez compris, la réputation d'humaniste républicain de l'ancien président avait été sérieusement écornée en 1973, au moment de la mort d'Omar. À Paris, nous avons aussi rencontré Gérard Bosiaux, qui était conseiller diplomatique et culturel du président Senghor au moment des faits. Il use pour nous répondre d'une parabole qu'il emprunte au penseur français Blaise Pascal.
Prenez donc l'intelligence de Pascal. Eh bien, c'est l'homme du doute. Il y a différentes vérités selon qui les donne, selon ce que l'on veut y trouver. Il y a la vérité réelle, il y a la vérité véridique, le véridique, il y a l'interprétation, il y a la fabulation, il y a tout cela. Et la seule vérité qui la détient.
À ce stade de l'enquête, une chose apparaît clairement. Aucun des témoins rencontrés n'a osé défendre la version du suicide. Est-il crédible que les proches collaborateurs du président Senghor n'aient pas cherché le fin mot de l'histoire ? Face à ces témoignages, Diallo Diop, l'un des frères d'Omar, pose un constat amer.
Ça vous laisse quelle impression ?
De la foutaise. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Ils se foutent de la République. Mais ils se foutent de notre gueule, mais vous savez, ça passe simple, ce n'est qu'un temps. L'heure de la reddition des comptes viendra. Tôt ou tard.
À quelques heures d'enregistrer ce podcast, nous avons fini par rencontrer un témoin qui ose briser le silence auquel se heurte la famille d'Omar depuis 50 ans. Jean-Pierre Biondi était conseiller audiovisuel, membre du cabinet du président Senghor au moment de la mort d'Omar. Nous le retrouvons dans son appartement parisien. Il s'exprime pour la première fois sur le sujet.
Moi, la version que j'ai toujours entendue, qui était donc une version plutôt senghorienne, c'est que c'était ses gardiens qui l'avaient assommé. Un jour, il aurait été extrêmement insultant pour ses gardiens et il y aurait eu une rixe entre ses gardiens et lui, au cours de laquelle ses gardiens étant à plusieurs, l'ont assommé et tué. C'est la version qui circulait dans le milieu où j'étais, c'est-à-dire à la présidence, parmi les conseillers, parmi les gens qui gravitaient autour du pouvoir.
Donc Omar Blondin Diop qui se serait pendu dans sa cellule, c'est un mensonge d'État.
Un mensonge d'État, oui. La réponse est sans doute.
Comment surgit le récit officiel du suicide ? Qui décide de dire « on va le présenter comme un suicide » ?
Ça, c'est des, à mon avis, des accords entre la présidence et le ministère de l'Intérieur. Ça peut être, oui, le Premier ministre, ça peut être que ça.
Qui s'agissait-il de protéger ? Y a-t-il eu ordre de mater Omar ? Si oui, qui l'a donné ? Ou s'agit-il d'une bavure commise par des geôliers zélés ? Malgré ce témoignage, de nombreuses questions restent donc en suspens. Et notamment celle du rôle de Jean Collin, le ministre de l'Intérieur. Souvenez-vous, ce sont ces hommes qui ont enterré Omar en catimini et que la rue Dakaroise tient pour responsable de la mort d'Omar dès les premières heures. En 2007, l'anthropologue Roland Collin, ancien directeur de cabinet du président du conseil de Senghor, donne du crédit à cette version en la consignant dans son livre « Sénégal, notre pirogue ». Au moment des faits, Roland Collin n'est plus au Sénégal et ne travaille plus à la présidence, mais il dit y avoir gardé des contacts bien informés.
On me dit que mon illustre homonyme Jean Collin, qui était ministre de l'Intérieur de Senghor, avec qui j'ai toujours eu d'ailleurs moi des relations extrêmement difficiles, ben, lors d'une visite à Gorée, passe devant la cellule de Omar Blondin, et Omar Blondin l'invective. Jean Collin est furieux et dit au gardien, celui-là, il faudra l'assaisonner. Et il s'en va. Et le lendemain, on apprend que Omar Blondin a été trouvé pendu dans sa cellule.
Cette chanson, reprise aujourd'hui par l'artiste Cheikh Guissé, est inspirée d'un poème intitulé « Ils ont assassiné Omar ». En 1978, Saïdina Issaouaid a dû s'exiler à Paris pour avoir mis ce texte en musique.
Saïdina Issaouaid a puisé du poème de El Hadj Momar Samb qui s'appelle « Africa », qu'il a écrit juste après la mort d'Omar, pour mettre dans sa chanson qui s'appelle « Afrique ».
Degloulé Niouhoussoufou Sénégal.
Donc, Degloulé Niouhoussoufou Sénégal. Écoutez tout ce bruit qui venait actuellement de la terre du Sénégal. Tous ces hurlements, les larmes, les pleurs du Sénégal parce qu'on a perdu Omar. Degloulé Niouhoussoufou Sénégal.
Andak Yoko Salou Bichigore.
en même temps que ces mêmes cris de Gorée, qui vient aussi de la chaloupe de Gorée.
Ça m'a battu le coup de mettre des nakadi, ça m'a la mine de safderet. Bom nañu Omar Diop niñu bomé Wander ak ñi ci Thiaroy.
On vient d'éliminer Omar. Bom nañu Omar Diop comme on a éliminé les femmes de Ndeer. Une histoire qui s'est passée au Sénégal au temps d'esclavage. Les Maures qui voulaient prendre les femmes en esclavage de Ndeer, elles se sont battues, elles ne voulaient pas. Elles se sont mises en feu. Elles sont toutes mortes parce qu'elles préféraient mourir que d'être les esclaves des Maures. Donc c'est les femmes de Ndeer. Donc on a éliminé Omar comme on a éliminé les femmes de Ndeer et les tirailleurs de Thiaroy. Nous sommes Omar, nous sommes Wander et nous sommes
Warabi 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 warabi.
Radio France Internationale, Dakar, Saint-Louis, Kolda, Ziguinchor, 5h30. Afrique Matin, au Sénégal, les jeux sont faits. Verdict des citoyens au fond des urnes du second tour. Reportage, confidence. Et dans 15 minutes, les mots de Maître Wade, ses premiers mots au micro de RFI après la fermeture des bureaux de vote.
Lorsqu'Abdoulaye Wade est élu président en 2000, l'espoir renaît parmi les proches d'Omar. Cette élection, rendue possible grâce à l'union de plusieurs partis issus de la gauche clandestine sous Senghor, est la première véritable alternance depuis l'indépendance. Il pense qu'une brèche va s'ouvrir. En 2013, nouvelle alternance à la tête du pays. La famille saisit cette fois la ministre de la Justice, Aminata Touré, dite Mimi Touré. Aujourd'hui de nouveau dans l'opposition, elle nous reçoit à Dakar et reconnaît que rien n'a été fait.
Je crois qu'on a reçu la lettre de la famille et voilà, les actions qui devaient être prises n'ont pas été prises, ça il faut le reconnaître. C'était pas perçu comme une priorité, certainement. Bon, c'était peut-être un peu trop avant-gardiste, peut-être, parce qu'il incarnait aussi une gauche radicale. Je crois que c'est l'une des tâches noires, justement, du régime de Senghor.
Pourquoi est-ce si délicat aujourd'hui de faire éclater la vérité sur cette zone d'ombre de l'histoire ? Au Sénégal et plus encore à l'étranger, il est encore difficile de un regard nuancé sur les années Senghor, explique l'historien sénégalais Ibrahim Mathieu.
Senghor a eu l'intelligence de se construire une image forte, d'être enraciné, comme il disait lui-même, dans les valeurs propres au noir et d'être ouvert au reste du monde. Senghor a eu une prestance intellectuelle et une intelligence politique. Senghor avait un pouvoir qui était suffisamment stable, parti de soumission aux intérêts de la France qu'on pouvait avoir sous Senghor.
Depuis quelques années, grâce au travail des historiens, le mythe du poète président et humaniste républicain commence toutefois à se craqueler. Le dossier Omar témoigne d'un paradoxe du président Senghor qui fut à la fois une source d'inspiration pour les droits civiques des Noirs, mais aussi une figure repoussoire pour les militants anticolonialistes. L'intellectuel sénégalais Felwine Sarr nous livre son analyse.
Il a un visage qui est complexe et je pense que certains ne veulent pas voir cet autre visage-là. On préfère l'académicien, le poète, le démocrate, etc., etc. Parce qu'effectivement, il a été d'une certaine manière, mais aussi, il a été l'agent d'une répression implacable en 68 contre les activistes, contre les maoïstes, etc., etc. Il y a cet autre visage de Senghor que des fois on ne veut pas voir, tu vois. Je pense que l'État du Sénégal, qui devrait faire l'effort de travailler à une vérité historique, n'a pas envie de le faire. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça aurait été le Parti Socialiste, les héritiers de Senghor qui étaient aux affaires. J'aurais pu comprendre qu'ils sont en train de préserver une mémoire, une image de Senghor. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que depuis Ouad, on fait pas avancer l'histoire sénégalaise et on répond pas au désir légitime de la famille, quoi, de que cette histoire soit tirée au clair. Et surtout, on doit regarder notre histoire en face, avec ses zones d'ombre, avec ses obscurités, pour que collectivement, on avance.
En attendant, la mort d'Omar Blondin Diop revient régulièrement hanter la politique sénégalaise et frapper à la porte de l'inconscient collectif. Sa figure est par exemple réapparue dans les rues de Dakar en 2021, après des manifestations au cours desquelles 14 personnes ont été tuées selon Amnesty International. Florian Bobin, historien et biographe d'Omar.
Omar est devenu une figure de cette violence d'État-là, celle qui tue. En mars 2021, au Sénégal, suite aux manifestations et émeutes qui ont été violemment réprimées par le régime, qui ont mené à 14 morts, la figure d'Omar planait. Lorsque on évoquait ces morts-là, on disait, voilà, regardez, depuis Blondin Diop, ça continue cette affaire-là. Donc c'est un précédent, en fait, qui revient constamment. D'une part parce que l'effort de justice n'a pas été fait et qu'il n'y a pas eu de jugement derrière, parce que l'affaire a été maquillée, et que les méthodes répressives d'antan ne sont pas révolues pour autant.
Donc là, on est
au siège de Frappe.
Frappe, le front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Souleymane Gueye est membre du secrétariat général du mouvement.
Donc, on est au siège du Frappe. Là, c'est notre grande salle où on accueille les collectifs de Sénégalais en lutte. Donc, dans cette grande salle, on a trois portraits. On a le portrait d'Amilcar Cabral, un portrait d'Omar Blondin Diop et un portrait de Cheikhanta Diop. Et Omar Blondin Diop, c'est vraiment le premier portrait qui a été réalisé et accroché dans les murs du FRA.
La résonance du combat anti-impérialiste d'Omar est particulièrement forte parmi cette jeunesse militante qui fait de l'anti-France-Afrique son nouvel étendard et adopte France dégage pour slogan.
Mais qu'est-ce que lui, il a de différent par rapport à d'autres, je ne sais pas, Cheikhanta Diop, ou par rapport à Amilcar Cabral, ou par rapport à d'autres figures?
Ce sont tous des figures qui nous inspirent. S'il fallait en choisir peut-être un pour un tableau, pour représenter les militants du FRAP, il coche un peu toutes les cases. Il était jeune. On est en mouvement avec des camarades assez jeunes. Il est, subversif, parce qu'il était contre les organisations. Il était à un niveau de subversion assez élevé. On trouve que Omar Blondin Diop n'est pas assez connu. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, le 11 mai, c'est plus vu comme l'anniversaire du décès de Bob Marley que la mort de Omar Blondin Diop. Et malheureusement, dans nos écoles ici, il y a certains pans de l'histoire qu'on ne raconte pas. Surtout après les indépendances, l'histoire s'arrête au moment des indépendances.
Omar, qui refusait de se laisser renfermer dans une quelconque idéologie, se serait-il reconnu dans l'image de martyr que l'on retient parfois de lui?
C'est inévitable qu'il y ait des figures qui deviennent des sortes de points cardinaux, comme c'est le cas pour Thomas Sankara, comme c'est le cas pour Patrice Lumumba, pour d'autres figures. Mais en tout cas, ce serait dangereux. Et ce serait même, sans doute, oui, contraire à ce pourquoi Omar a combattu, que de le figer uniquement dans ce mythe du martyr qu'il est devenu malgré lui. Et c'est en cela aussi que je pense qu'il faut être vigilant d'une récupération possible de la figure d'Omar. C'est-à-dire que sa mort, c'est un événement tragique sur lequel la lumière doit être faite. Mais si notre rapport à Omar et plus généralement à cette génération 68-arde et post-68-arde ne se limite que à la répression, à la réaction ou à la mort en l'occurrence, ça enlève aussi la charge subversive de ce qu'il a été, de ce qu'il est toujours aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit, ce retour de mémoire témoigne pour l'intellectuel Felwyn Sarr d'une soif de figure héroïque nationale, d'un besoin de repère parmi la jeunesse sénégalaise et plus largement africaine.
Oui, en fait, il y a une recherche de figures révolutionnaires, mais aussi de figures identitaires. Je dirais, il y a le désir de, donc, d'avoir ces héros qui viennent du terroir. Ce qui peut s'entendre et se comprendre, mais je pense que lorsqu'on plongera un peu plus dans la figure de Omar, on se rendra compte que c'est pas une figure identitaire, quoi. C'est une figure qui articule des héritages français et sénégalais, y compris dans ses références, y compris dans son itinéraire, y compris dans son rapport au monde, quoi. Et que c'est une figure hybride.
Mais la recherche de modèle, oui, a tendance à gommer la complexité.
La recherche de modèle a tendance à gommer la complexité. C'est une trop forte extranéité que l'on veut compenser. Et ça s'entend. Mais je pense qu'une fois qu'on aura dépassé cette phase de dire nous avons nos référents, nos modèles à nous, nos grandes figures, on réarticulera la complexité de toutes les figures, quoi. Y compris celles qui viennent d'ici. Parce que celles qui viennent d'ici, on oublie aussi qu'elles ont été prises dans le mouvement du voyage, quoi. Et qu'elles se sont aussi formées dans l'ailleurs avant de revenir incarner un propos, une attitude.
Réhabiliter l'homme au-delà du mythe et des circonstances tragiques de sa mort, ne pas laisser sa mort précoce figer sa figure dans l'histoire. C'est dans cette optique que son biographe, Florian Bobin, a fait paraître en 2023 un recueil des écrits d'Omar. Avec comme objectif de mieux faire connaître ses réflexions, la force de sa pensée et de lui redonner sa juste place dans l'histoire.
Il est important de porter ce combat pour la vérité et la justice. Et en même temps, il est important qu'on comprenne que c'était un jeune qui questionnait le monde. Qui questionnait le monde dans lequel il se trouvait, dans les mondes dans lesquels il se trouvait, entre le Sénégal, la France, entre l'Afrique et l'Europe. Et qui avait une dimension aussi internationale et internationaliste, et qui interrogeait à la fois la politique, l'art, la discussion et l'interaction entre les deux.
C'est quoi l'essentiel alors, si on le résume ?
Je pense que c'est quelqu'un qui aimait la vie. Et il n'avait pas du tout ce rapport mortifère à la révolution. On va mourir pour la défense de la patrie, on va... On se comportait comme des héros ou des messies, etc. Omar, c'était l'anti-héros, c'était l'anti-messie. Un idéaliste qui a voulu lutter au Sénégal, mais sans connaître les aspérités du réel.
Parmi les textes marquants qu'Omar Blondin Diop a écrits, il y a ce projet de théâtre urbain.
Principe, notre pays est composé de deux types d'hommes. Ceux qui vivent dans l'orbite de la culture occidentale ou s'y dirigent, et ceux qui se situent en dehors. Ces derniers représentent la grande masse de notre peuple. Ils sont ceux qui ont quelque chose à dire, les autres pouvant être considérés comme de simples perroquets. Retrouver dans l'histoire commune du peuple les personnages ou des faits, batailles, réalisations grandioses des anciens empires, susceptibles de servir de modèles actuels. Conclusion morale, plutôt la mort que l'esclavage.
Plutôt la mort que l'esclavage, nous lègue Omar Blondin Diop dans cet écrit de 1970 que nous avons choisi comme titre à ce podcast. Cette phrase fait écho à une célèbre citation du président guinéen Ahmed Sékou Touré, l'homme qui a dit non au général de Gaulle, le premier président d'Afrique francophone à mener son pays vers l'indépendance. Ironie tragique, elle fait aussi écho au destin d'Omar, qui luttait pour l'indépendance des peuples et mourut dans un lieu associé à l'histoire de l'esclavage. Comment est-il mort ? Au terme de notre enquête, la thèse officielle du suicide semble peu vraisemblable. Personne n'ose la soutenir aujourd'hui. Un témoin la qualifie de mensonge d'État. Une ancienne ministre parle d'un assassinat. Pourquoi alors autant d'hésitations et de non-dits ? De quoi faut-il absolument disculper l'ancien président ? D'avoir donné un ordre ? Personne ne l'avance, même les plus proches d'Omar ne semblent pas y croire. Peut-être d'avoir couvert une bavure et ainsi protégé son ministre de l'Intérieur. Seule une réouverture du dossier judiciaire permettra de trancher. Les autorités actuelles ne semblent pas pressées. Mais Omar est une figure qui résiste au temps et aux tentatives officielles d'effacement. À l'heure de conclure ce podcast, nous sommes frappés par ce décalage entre la fulgurance de la vie d'Omar Blondin Diop et son empreinte dans l'imaginaire collectif sénégalais. Un jeune homme mort il y a 50 ans, dont beaucoup de proches parlent encore au présent et dont le nom est parfois scandé dans les rues dakaroises lors de manifestations. Son combat anti-impérialiste est encore une boussole pour plusieurs générations d'Africains qui vont jusqu'à l'inscrire dans la lignée des héros panafricains morts pour la libération des peuples noirs. Les doutes sur la responsabilité de l'État dans sa mort alimentent paradoxalement la prégnance de la figure d'Omar. Elle continuera sans doute à planer tant que ne lui aura pas été donnée sa juste place dans le récit national. Omar Blondin Diop, plutôt la mort que l'esclavage. Un podcast écrit par Clémentine Métainier et Florence Maurice, réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à Simon De Creuse, Steven Jambot et Antoine Bonnet de la cellule podcast de RFI.
Vous êtes à l'écoute, you're listening to CQT 90.3 FM radio here in Montreal. This is Amandla Radio. I'm Doug Miller with Gwen Schulman. And now, tonight, we present the first episode, the African Five Aside podcast, an ongoing conversation about Africa through the prism of football. The five-part series by sports journalist Maher Mezahi moves beyond the trivial mechanics of the sport to discuss the game as a social enterprise that teaches us about the human condition from an African perspective. Tonight, we present Match Day 1, Azikiwe, Ben Bella and Gaddafi, some of Africa's famous football politicians. Africa Five Aside is a production of Africa is a Country.
All right, welcome to the first episode of the African Five Aside podcast. I can't believe we're finally here. A special thank you to the good folks over at Africa is a Country for really making this happen. I've been really touched by that outpouring of support, even though we hadn't even recorded our first episode. This is episode zero of Match Day One. And as mentioned in the intro video, Match Day One of the African Five-A-Side podcast is going to take a look at African football's most influential politicians. So this is the first lineup we're going to make. We're going to make our own five-a-side team from those politicians. But before we profile those heads of state, I think it's necessary that we lay a few ground rules and that we name our substitutes. So I have four very brief housekeeping notes before we begin. Number one, please, if you'd like, subscribe across all platforms. We have a YouTube channel. There's audio platforms wherever you usually get your podcasts. This will be available. We have a Twitter account. We have a Substack. And currently in the process of setting up a TikTok. I'm not sure how well that's going to work. Point number two, I'm perfectly aware that the audio and the video quality is not where it needs to be. Currently in between houses. I don't really have the equipment with me, but you can expect both the audio and video quality to improve drastically in the coming weeks. So just brief apologies about that as well. Number three, profiling a head of state is by no means an endorsement of their policies. It's very basic knowledge, but I think this has to be said. Some of the people that we'll be discussing have been horrible authoritarians. Some of them were pretty good statesmen. Our focus is more on how and why they accelerated the development of football in their country and on the continent. And finally, final housekeeping note is that no current heads of state or even recent ones will be named because that just carries too much emotional baggage. So leaders like George Weah, the only head of state in the world, that's one a Ballon d'Or is not going to be mentioned. You could also throw out the likes of Paul Kagame in Rwanda, King Mohammed VI in Morocco. They could have their sporting legacies told, but if they're going to be told, they're going to be told in the future because telling them now is just too emotionally charged. So now that we know the rules of the game, let us name who our substitutes are going to be. And I don't need to tell you the importance of substitutes. These are the fellas that will be giving us that adrenaline boost, that shot of energy as needed, you know, in the 80th minute, in the 85th minute as we're trailing 1-0. So we're going to start in chronological order.
and give a bib to one of the most influential politicians in post-colonial Africa that we unfortunately too often forget, Nnamdi Azikiwe. Nnamdi Azikiwe, also known as Zeke, often referred to as the father of Nigerian nationalism, a journalist, a former politician, and most importantly, concerning us, a former athlete too, born in 1904 in northern Nigeria, then British West Africa. For those unfamiliar with Nigerian demographics, Nigeria is home to three main ethnicities. You have the Hausa folk up north, you have the Yoruba, which is more southwest, and then you have the Igbo southeast. Zeke is by blood Igbo, but he was born in the north, in Hausa, and he considered himself a Hausa boy growing up, sort of. His father, not too best pleased with that, said, you know what, you're going back to Igbo territory, and he sent him on the banks of the Niger River, and that's where he really started to develop a lot of his athletic traits, hunting, fishing, swimming, wrestling. And then finally, when he was time to go to high school, he goes to the Wesleyan Boys High School. That's in Lagos, in Yoruba territory. And that kind of education, how he sort of frequented all three main ethnicities, I think really made him an ideal candidate to lead Nigeria after independence. So after finishing high school, he remained in Lagos and as a young man joined the Diamond Football Club, with whom he won the league in 1923 as a player and later as a general secretary, ultimately beating the Lagos Athletic Club, which he, in his memoirs, mentions they were a famous European club, which were undefeated before meeting the Diamond Football Club, which was more of a mixed, predominantly Nigerian team. And you can imagine the symbolism of that, and that sort of as a young man getting the imagination going about the power of sport in defeating colonization. Encouraged by his father, he left for the United States in 1925, and he spent about a decade over there. He got his doctorate in anthropology. He went to some of the best universities in the United States, places like Columbia, Howard. And once again, there he displayed his athletic talents in archery, in track and field, boxing, cricket, cross country, field hockey, swimming. And during his stay in the United States, I think Nnamdi Azikiwe, like many non-Americans are when they realize what the American sports media landscape is, he was fascinated by the importance of media and professional sport in the United States. And those links between those two sectors of activity. So very quickly, he realized the power of harnessing media and attaching it to sport. And so when he returned to Africa in the mid-1930s, I think he had that on his mind. Now, one of the things that you have to know about Azikiwe is that he was a really, really talented athlete, and he did want to represent Nigeria at the Olympic Games. That never happened. He wanted to represent Nigeria at the British Empire Games in 1934, and this was an event that really, really hit him hard. It's the British Empire Games were organized by the Amateur Athletic Associations of Great Britain. And they said that they didn't qualify him in time. They didn't do the paperwork in time. He suspects, and I think a much more credible theory, is that the South African athletes didn't really have a taste for competing against him. And as a result, they used some kind of paperwork technicalities to rule him out. It was then that he sort of dropped his name Benjamin, because when he was in the States, he was going by Ben Azikiwe. And that's when he dropped Ben and he continued with Nnamdi Azikiwe, very much embracing his heritage, sort of shirking off any kind of British identity and realizing that the road to emancipation leads to identity. In 1937, he created his press group in Lagos around, it was called the Western African Pilot. And he used his newspapers to sort of deliver subtle messages of a future without British rule. And he ended up building a conglomerate of newspapers and really, again, developing that link between sport and politics. Shortly before the Second World War, Zeke became strongly persuaded of sport's capacity to not only affect political change, but also bring together Nigerians. And again, think back to his education, spending that time in Hausa country, in Igbo country, in Yoruba country. And then he goes to sign up at a tennis club, a Yoruba tennis club, and he's denied access. He's denied membership due to his ethnicity. So this happens in 1937. It's another real event that really hits him hard. And so what he does is he creates his own sporting club, the ZAC, Zeke's Athletic Club, funded by his newspaper group and his member subscriptions. Now, the ZAC becomes a hub of sporting activity, social activity. He had branches across Nigeria, fielded really strong football teams. They had a nickname that was the Bombers or the Spitfires, and they would attract thousands and thousands of people in the stadiums. Zeke, at the time, the British authorities were kind of suspicious of him, but he really was a very smart man, and he took advantage of World War II and the fact that he knew that the British authorities wanted a united front in Nigeria to sort of fund and support the Great War efforts. And so what he said was that we were going to do a goodwill tour in 1941 and 1942 with his club, the Zeke's Athletic Club, for the purposes of raising funds for the Allied war effort in 1941. The British authorities said, fine, go ahead, and he does it. And what very quickly happened in 41 and 42 is that the football section of the ZAC tours all kinds of Nigerian provinces, and although, yes, they raised money for the metropolis at war, in reality, what they were doing is that they were meeting people, you know, different people that otherwise had no real opportunity to meet one another, Igbos, Yorubas, Hausas, and they're trying to use sport to really shore up those religious divides and those ethnic divides. At the end of these matches, you know, Zeke could launch into diatribes against British politics. They could talk about reforms for democracy. And so really under the cover of football, what he was doing was advancing the Nigerian cause. And so it's only normal that when the British withdrew in 1960, the keen and talented former amateur footballer Nnamdi Azikiwe became Nigeria's first president. Why is he on the bench and why is he not a starter? That's a damn good question. But we put Zeke on the bench because he only actually stayed in power for 3 years. And then he was deposed by a coup d'etat. And as a result, we can't really include him in our starting lineup. Zeke is kind of the player that, you know, has a lot of talent and ability, kind of like an Ebu Diaby, but his career just wasn't long enough. And as a result, he has the first spot on our bench. Next on our bench is the first president of independent Algeria, Ahmed Ben Bella. Ahmed Ben Bella grew up in Western Algeria. He played in his local city of Marnia in the nowadays the province of Tlemcen. Prior to the Second World War, he was playing as a sort of striker, kind of like a creative midfielder. Positions were different than they were today. And so when the Second World War broke out, Ahmed Ben Bella was drafted and he was stationed in Marseille. So he was fighting on the Allied front. In the French military bases, Ben Bella was impressing because they had time to play football. The French invasion didn't really begin until later in the war. And so in those early days, he was playing football. And during the war, France was split into five regions. The French league was split into five regions. Marseille was put in a southeast division alongside Nice, Cannes, Saint-Étienne, and Antibes. His displays at the military base earned him a call-up to the military national team. And then he played so well with the military national team that he actually got called up to play with a club named Château Gombert. He played so well with Château Gombert that Olympique de Marseille had actually asked him to come and play a match for them. And this took place on April 21st, 1940, against Antibes. Marseille would win either 9-0 or 9-1. There are two different accounts. And Ahmed Ben Bella scored the third goal in that rout. And so it's fascinating to see because I think after George Weah, Ahmed Ben Bella is the only African president to play professional football, even if it was only for one match. During the war, he was honored with the Croix de Guerre for his outstanding bravery, but immediately after he returned to Algeria, he engaged in the Algerian nationalist struggle. For those that don't know, following World War II, the 8th of May 1945 is known as VE Day in Europe. But in Algeria, there was a huge massacre in Sleif and Kharata and Galma. And as a result of that massacre, that's when people believed there was a deep fracture in, at the time, French Algeria. And as a result, he engaged himself with the nationalist revolutionary front. He was one of the six leaders of the Algerian Revolution, and although he spent most of the Algerian Revolution in prison after French authorities pulled off one of the first acts of airplane hijacking in history, his credibility remained intact after independence. So behind his stint at Marseille, football played one more big role in Ahmed Ben Bella's life, but this time it was during his downfall. The year is 1965. He's been in power for 3 years. And Algeria, like many African nations, what they do is they invite Brazil and Santos to come play friendly matches in Algeria. And this was not just Brazil. Algeria invited a lot of celebrities. I think what a lot of younger nations tended to do was to invite superstars or celebrities to come over. It sort of provides a sense of validation for a new country, especially if they align with their political principles. So Ben Bella invites Brazil. Algeria gets invited to play against Pelé and Garrincha. They're playing a couple of friendly matches, one in Oran and the second was in Algiers. The first in Oran was to take place on the 17th of June, and the next one in Algiers on the 20th of June, 1965. There's a great photo of Pelé speaking to Pelé and Garrincha. There's a great photo of Ben Bella speaking to Pelé and Garrincha. And the first match takes place on June 17th. Algeria loses the match. Ben Bella is at the stadium, and sure enough, there's a French journalist that's following him, doing some kind of news report about the entire thing. And so we really get the real final few moments of Ben Bella in power caught on French television, and the archival footage is available for those interested. I can put it in the YouTube description. At the time, in Algiers, Gillo Pontecorvo was also shooting The Battle of Algiers, one of, in my opinion, the greatest movies ever shot. But you have tanks in the street, you have, you know, actors in military garb and fatigue running across in the street as well, and people weren't really shocked by it, you know. Seeing, you know, military in the street because they thought they were shooting things for the movie. And so on the 19th of June, 1965, one day before the second friendly match that was supposed to take place between Algeria and Brazil, there's a coup d'etat that takes place. Ahmed Ben Bella is removed from power. And football played a role in sort of providing as a distraction to remove him from power. And so Ahmed Ben Bella, talented, only the second African head of state to play for a professional football team, actually the first, but I think the second most important, he finds a place on the bench next to Nnamdi Azikiwe. Beside Nnamdi Azikiwe and Ahmed Ben Bella on the bench is someone who isn't nearly the athlete that they were. Someone who nonetheless had resources to control football. The Libyan leader, Muammar al-Gaddafi. Now, anyone that knows anything about al-Gaddafi knows that he never liked football. Gaddafi is like the kid you call up when you don't have enough players. You're just looking to make up the numbers, but he has a ball. He has, you know, the key to the cage to open it up so that you can go and play, or he has a car and he can pick you up and drop you off. And he's just looking for validation, you know. So Gaddafi was born in a very, very modest Bedouin family. His family sacrificed to send him to school. But he showed real intelligence and affability growing up, and his family were encouraged by that, and they moved him to Sebha to continue his education south of Tripoli. There he had access to the radio and Gamal Abdel Nasser's radio program that was, you know, broadcast out of Cairo, the voice of the Arabs. And you have no idea how influential Gamal Abdel Nasser and that sort of pan-Arab philosophy was on Gaddafi. There was, at the time, all the countries were gaining independence as well across the African continent, and there's a real spirit of pan-Arabism, and it really was a different time. There's a general awakening across the African and the Arab world. And so Gaddafi, with his Free Officers Movement, named after Gamal Abdel Nasser's Free Officers Movement, they carried out a bloodless coup in 1969 as Libyans had enough of their monarchy. He stepped in at the opportune time as King Idris was out of the country, and he established the Jamahiriya over the next decade. Jamahiriya, for those that don't know, is like a horizontal socialist society, but no political parties. Everything is governed through local popular councils. It's sort of like a Gaddafi's version of socialism that is supposed to be purely democratic. And in the 1970s, Gaddafi writes his Green Book, in which he elaborates his ideas for Libyan society. Now, I'm giving you this political background just to illustrate what Gaddafi really thinks about football. Because in the chapter of his Green Book entitled Sport, Horsemanship, and the Stage, he outlines his disdain for spectator sport. So listen to this, and I quote, "The thousands who crowd stadiums to view, applaud, and laugh are foolish people who have failed to carry out the activity themselves. They line up lethargically in the stands of sporting grounds and applaud those heroes who wrest from them the initiative, dominate the field, and control the sport, and in so doing, exploit the facilities that the masses provide." Gaddafi sounds like my mother when I talk about how much I love football, and she just says, "Yeah, why don't you go play it? Why are you watching it? You know, stupid game." And professional sport was banned during the first years of his reign. It was only reinstated under certain conditions. Around a decade in, we get signs that Gaddafi started to appreciate the power of sport. In 1978, for example, the Ghana Black Stars win the African Cup of Nations. But at the time, Ghana was bankrupt. And what Libya did, what Gaddafi did, was he actually funded their training camp. He gave them money to compete in the tournament because he had an affinity for J.J. Rawlings, Ghana's former president. And so you could see that there were signs that he was starting to embrace football. And in 1982, Libya decided to host the Africa Cup of Nations. And this is legendary because nowadays, when you look at major tournaments like the Africa Cup of Nations, you can see, you know, across the advertising boards, you have whoever it is, Fly Emirates, Nike, you know, back in the day, we had JVC, Toshiba, McDonald's, Adidas. During Gaddafi's African Cup of Nations in 1982, instead of marketing slogans across the advertising boards, you had revolutionary slogans. You had one of them was, "We are partners, not employees." The other one was "Democracy for All." During the opening ceremony, there was a TIFO for his revolution, the Fatah Revolution. There were people holding up signs for the Green Book, his manifesto. And there is this apocryphal anecdote that exists online that Al-Gaddafi goes up and makes a speech. And he finishes his speech with, "Now I leave you with your stupid game." Just mind-blowing and absolutely legendary. We don't know if it's true or not, but if it is, wow. Now, despite Libya's successes in 1982 at the AFCON, they make it to the final and lose to their friends Ghana. Gaddafi always viewed football as a tool, not as something to be developed in and of itself, but something with which to, you know, influence the masses. There are stories like Libyan broadcasters on the radio claiming that they couldn't mention the names of players. Instead of saying, you know, Harry Kane passes, they would say number nine passes, just because Gaddafi didn't want the cult of personality, which is a bit rich coming from him. There were other times where he made the Libyan national team forfeit matches because of political differences with the opposition. And sure enough, fate has a twisted sense of humor. But God gives him a son that absolutely loves football, Saadi al-Gaddafi. And we won't go far into Saadi al-Gaddafi's story because that's another story for another time. But there's a really interesting quote where he says that his father doesn't understand what football can do for young people and the sort of hopes and aspirations and the breath of fresh air that it can provide for them. Saadi al-Gaddafi goes on to play in Serie A in Italy, plays with the Libyan national team, Etihad Tripoli, and is actually a decent footballer, but there are some absolutely crazy anecdotes about him and his time in football. So that's who we have on our bench. We have Nnamdi Azikiwe, we have Ahmed Ben Bella, we have Saadi al-Gaddafi, an eclectic group of fellows for sure. Next week, we will get into the starters of our five-a-side team, the goalkeeper. I'll give you a hint. He's tall, he's handsome, he smokes like a chimney, and he had an absolutely essential role in establishing structure for African football.
That's it, ladies and gentlemen, friends and comrades. All, thank you for listening to Amandla Radio here at CQT. We ask you to have a very good week. Stay strong. don't put up with the BS you're getting from the mainstream media about what's going on. Read it for yourself. Learn and get out there and act on it. Stay tuned to Jazz Euphorium. Good night.
Can you do it?